L'invité de la matinale.
Le 6-9 du week-end. Éric Delvaux. Sur France Inter.
Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
Ancien ministre des Affaires étrangères de 1997 à 2002. Vous publiez Comptes à rebours aux éditions Fayard. Tous ces comptes à rebours sur les questions écologiques, migratoires, dans un contexte géopolitique chaotique. Il y a aussi les questions numériques, les questions d'économie. Tout ça est bouleversé et vous suggérez dans ce monde chaotique quelques pistes à explorer pour un nouveau paradigme. Il ressemble à quoi ce nouveau paradigme?
D'abord, il faut plus de lucidité dans l'analyse de la situation internationale. Cesser de rêver à des concepts idéaux.
Chimères anciennes, vous écrivez.
Par exemple, de ne pas parler de communauté internationale, vous voyez, qui est un objectif à long terme, en réalité, qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, ce qui me frappe, c'est que l'ensemble des crises que vous venez d'énumérer arrivent en même temps. Elles sont imbriquées. Le compte à rebours écologique est le principal, et pas que sur le climat. Le compte à rebours démographique, en tout cas du point de vue occidental, compte tenu du fait que le reste de l'humanité se développe à toute vitesse. Le choc numérique, qu'on a du mal à apprécier. Le désordre géopolitique, il n'y a pas du tout d'ordre mondial. Même le secrétaire général des Nations Unies parle de monde chaotique. Donc ça arrive en même temps. Et il me semble que les Occidentaux, en général, d'abord, ne sont pas d'accord entre eux. Vous voyez, entre Trump et les Européens entre eux ont du mal à se mettre d'accord sur les éléments clés qui est comment maintenir le mode de vie à l'européenne qui a été élaboré au fil des siècles et quand même ce qu'on a inventé de mieux ou de moins pire, enfin, comme on veut, vous voyez, par rapport à ça. Donc, déjà au préalable, il y a un problème de conscience, de lucidité, de courage dans l'analyse. Alors après, j'en arrive, si je passe tous les détails, à l'idée qu'il faudrait que, pas l'Europe, je dis jamais ce mot, parce qu'on sait jamais ce que ça désigne quand on dit l'Europe au singulier, c'est un mouvalisme, mais les Européens devraient réagir par un grand sursaut, qui n'est pas forcément plus d'intégration au sens classique, hein, une sorte de sursaut mental, et je pense que c'est peut-être le dernier moment, en fait, compte tenu de la vitesse de l'évolution dans le monde, où il n'y a aucune évolution qui aille automatiquement dans le sens de ce que nous souhaitons, en réalité. Ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire, ni qu'il faut rien faire. Voilà, donc c'est une sorte de cri d'alarme. Pourtant, je ne suis pas un excité hein, là-dessus, je ne suis pas un pessimiste de profession.
Non, d'ailleurs, le sous-titre, c'est « Comment conjurer ces menaces ?» Donc, voilà. Il y a bien des solutions.
Et donc, compte à rebours, c'est au pluriel, parce
oui.
qu'il
y a,
c'est
y a
la
trois
question de la conjonction.
Vous avez conjonction. Énuméré. Dans ces nouveaux paradigmes, il y a une expression qui revient, mais qui n'est plus d'actualité, c'est cette guerre froide. La guerre froide entre les États-Unis et la Russie, ce n'est plus possible, d'abord parce que la Russie, elle, n'est plus dans une façon de penser incompatible avec les États-Unis.
Ce qui a caractérisé la guerre froide, c'est qu'elle est restée froide. Donc ça n'a pas passé à la guerre. Il n'y a pas eu la Troisième Guerre mondiale sous la guerre froide, mais ça a duré des décennies. Des décennies de menaces nucléaires. Encore que moi, je pense que le nucléaire a garanti la paix par la symétrie des menaces, mais nucléaire
la
conventionnel.
Nucléaire.
Les espions, c'était pas un ou deux assassinés de temps en temps, hein. C'était par paquet, tout le temps. Donc il y a eu un moment très long, pendant des décennies, jusqu'à ce que Gorbatchev finalement mette fin à l'URSS. Ça a dépassé son projet, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'il y a les éléments d'une sorte de guerre froide, par une sorte de jeu absurde, et du côté occidental, et du côté russe, pas depuis 6 mois, hein, depuis 25 ans, depuis la fin de l'URSS et le retour à la Russie, et qu'il n'y a même pas les éléments de négociation et de discussion qu'il y avait pendant la vraie guerre froide, où même des durs à cuire comme Kissinger ou Nixon avaient inventé la détente. Donc il y a un élément de risque actuel, parce que ça n'est pas géré, cette situation dont vous parlez.
Pourquoi, aujourd'hui, il n'y a pas d'ébauche, de rapprochement, de discussion entre ces deux blocs? Est-ce que c'est lié à la personnalité des dirigeants?
Non. C'est pas lié à ça, c'est lié au fait qu'après la fin de l'URSS, la vraie date c'est pas la chute du mur, c'est la fin de l'URSS, fin
oui, 91.
Donc à partir de 92, les Occidentaux se sont dit on a gagné. Il faut rappeler sans doute la théorie de la fin de l'histoire. L'histoire est finie, faute de combattants, parce que tout le monde est d'accord sur la démocratie de marché. Bon, donc on a traité la Russie comme quantité négligeable. Et il y a eu, je ne sous-estime pas le problème posé par la Russie. Il y a un côté dangereux, menaçant, il faut être clair, net, fort, dissuasif, tout ce qu'on veut. Il n'empêche que les Occidentaux ont traité la Russie avec désinvolture, avec arrogance et mépris, notamment pendant les deux premiers mandats de Poutine, où il était assez ouvert, en fait, par rapport à l'Occident, assez demandeur, assez disponible. Donc, pour des raisons tenant à la localisation des systèmes antimissiles, à l'élargissement de l'OTAN, la conception de l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine pour la couper de la Russie, fait une série de choses qui auraient pu être gérées, à mon avis, beaucoup plus intelligemment. Donc, on a réveillé ce qu'il y a de pire en Russie, à mon avis. Donc, aujourd'hui, non, on est au point zéro. On est au point zéro.
La semaine dernière, lorsque la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis sont allés porter des frappes ciblées en Syrie. Est-ce que nous avons pris le risque, nous les Occidentaux, on mettra ça entre guillemets, est-ce qu'on a pris le risque d'humilier la Russie ?
Non, je pense pas. Là, il y a zéro risque et c'est bien moins pire que si on n'avait rien fait, en fait. D'autant qu'il ne faut pas analyser ça sous l'angle syrien, mais sous l'angle chimique. Et la France a des raisons particulières d'être très sensible à ça. Le souvenir très lointain,
14-18.
Voilà. Après, c'est la France qui a pris dans les années 20 la première des initiatives qui ont abouti à une convention internationale pour prohiber l'arme chimique. Ça a été repris sous Mitterrand dans les années 90. C'est quand même, dans le désordre mondial, une des seules choses qui tiennent à peu près, la prohibition de l'arme chimique. Donc, en attendant qu'une communauté internationale agisse pour elle-même, etc., etc., je trouve que c'est pas insensé, c'est pas incompréhensible ni indéfendable qu'il y ait une action, dès lors qu'elle était ponctuelle sur les sites chimiques, et dès lors que ça ne brise pas la discussion à venir avec la Russie. Parce que la question, c'est plus la Russie que la Syrie.
Oui, la Syrie, en fait, finalement, le dossier est un peu marginal. On mettra ça aussi entre guillemets, évidemment.
Et là, on parlait d'absence de discussion avec la Russie. Dans les voyages à venir très importants du président Macron, il y a évidemment les États-Unis, dont je crois que vous voulez parler après, mais il y a le voyage en Russie. Le mois suivant. Et beaucoup de choses se jouent là, en fait.
La prochaine étape militaire des alliés, est-ce que ça pourrait être d'aller déloger Bachar al-Assad de la Syrie, du pouvoir ?
Écoutez, moi, je ne suis pas aux commandes en ce moment.
Non, mais est-ce que c'est un objectif
Il me semble que non. Non. Il me semble que non, que c'est clairement lié au fait qu'il y a quand même une ligne rouge, malgré tout, il n'y en a pas beaucoup, et qu'elle a été franchie, donc il faut une réaction sur ce point. Et que l'absence de réaction aurait été pire que les inconvénients que certains relèvent par rapport à cette frappe.
C'est pourtant ce qui s'est passé avec Barack Obama, qui avait lui aussi mis une ligne rouge s'il est
justement,
la Syrie
c'est pour ne pas recommencer
menacée,
la
finalement.
C'est la seule. Moi, je suis très.
Barack Obama s'était retiré.
Je suis très pro-Obama. Mais sur ce point précis, il avait eu tort de dire ligne rouge et de ne pas agir après. Alors, il n'est pas suivi parce que l'Angleterre s'était détachée, que le Congrès ne l'aurait pas suivi, etc., etc. Mais il n'empêche que c'est pas possible de ne pas marquer le coup. D'autant que certaines informations montrent que Poutine lui-même est furieux contre le régime de Damas, qui n'a pas respecté l'accord que les Russes avaient inventé il y a 3 ans pour empêcher Obama d'agir, justement, sur le retrait complet de l'arme chimique. Donc il y a une espèce de petit jeu entre Syrie et Russie. Donc l'action sur le chimique n'est pas injustifiée. Mais ça ne règle pas la question, parce que les Occidentaux ont de toute façon totalement échoué en Syrie. Et maintenant, la Syrie est contrôlée par 3 protecteurs, entre guillemets, Russie, Turquie, Iran. Et nous ne pouvons rentrer dans le jeu politique, diplomatique, ce qui n'est pas impossible d'ailleurs, que le moment que quand Poutine aura vu que c'est quand même très embarrassant pour lui d'être coincé dans ce piège syrien avec les Iraniens.
On va en parler.
Vous voyez, c'est indépendant de la question sur l'arme chimique, de la réaction sur l'arme chimique.
Pulse à plusieurs pièces délicates. L'actualité, Hubert Védrine, c'est aussi Emmanuel Macron qui sera à partir de demain aux États-Unis. Il sera le premier chef d'État étranger d'ailleurs à être reçu par Donald Trump avec les honneurs d'une visite d'État. Quel est le sens de ce déplacement ?
D'abord, c'est normal qu'un président français, quel qu'il soit, aille rendre visite au président américain, quel qu'il soit, et réciproquement. Ça, c'est normal. La chose originale, c'est que dans les grands dirigeants mondiaux, Emmanuel Macron est le seul à avoir tenté une relation entre guillemets, avec plein de guillemets, amical, enfin une sorte de relation.
Sereine.
Alors que personne n'en a, en fait. Personne, même ceux qui sont contents de Trump, il y a 2-3 pays malgré tout, comme l'Israël ou l'Arabie, bon, c'est tout. Mais personne n'a une relation sereine normale. Donc il dit, je vais tenter ça. Alors on peut dire, bon, ça va pas marcher, dire ça n'a pas marché sur le climat, mais aucune des autres postures avec Trump ne marche non plus. Donc après tout, pourquoi ne pas tenter cette approche-là ?
Oui, d'autant que Donald Trump a l'air d'apprécier, vous le dites, le président français. Est-ce que ça peut avoir une influence sur les 3 principaux dossiers de désaccord entre les Américains et les Européens, plus que la France ? Je parle du dossier climatique, des questions de libre-échange ou du dossier iranien ?
Pour le moment, non. Mais c'est à tenter. Donc il ne faut pas critiquer la tentative ni la démarche. Et il faudra pas être trop critique si ça n'aboutit pas totalement, ou pas immédiatement, ou même pas du tout, parce que il faut tenter ça, par rapport à ça. D'autant que c'est pas que Trump. Alors, il y a beaucoup de milieux en Europe où on a voulu faire de Trump une espèce de monstre absolu, une espèce de fou furieux, mais il est représentatif de quelque chose, quand même. D'une partie de l'Amérique, d'un système américain. Les députés au Congrès ou les sénateurs sont quand même nombreux. Ils détestent son style, mais ils sont nombreux à être sur cette ligne. Il y a une volonté américaine de ne rien lâcher sur Russie. Donc, c'est pas que Trump par rapport à ça.
Vous le rappelez dans votre livre, lorsque Trump est arrivé au pouvoir, vous l'avez qualifié de ubu potentiellement dangereux et vous avez dit que finalement, peut-être que l'administration, en tout cas peut-être que le système américain pourrait sinon le changer, en tout cas l'encadrer. Après 16 mois de pouvoir, est-ce que vous pensez que le système américain est capable d'encadrer le président Trump ?
Un tout petit peu. Un tout petit peu, mais pas beaucoup. Mais j'ai des amis démocrates qui s'étaient mis à rêver que les généraux soient forts. Pour la première fois dans leur vie, précisément pour l'encadrer. Mm. Mais on voit bien, mais donc il a tous les défauts qu'on peut relever. Il est effrayant de vulgarité, de violence, mais il n'est pas disons incohérent par rapport à ses engagements, par rapport à sa base, par rapport à ça. Donc il devient pas imprévisible au sens de siphonner. Fou, vous voyez, oui. Il devient même dangereusement prévisible. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait ? On va pas simplement gémir, attendre qu'il y en ait un autre un jour. D'autant que c'est l'Amérique aussi. L'Amérique ne sait pas trop comment se comporter par rapport à ce monde qu'elle ne contrôle plus globalement. Donc ils hésitent entre tout contrôler, se replier, c'est incohérent. Bon. Donc tenter une relation paradoxale avec Trump pour essayer de faire passer dans ce système trumpien certains éléments de message, moi je trouve que le président a raison de tenter ça.
Et est-ce que le président Macron peut être ce que Angela Merkel était pour Barack Obama, Macron auprès de Donald Trump, c'est-à-dire un représentant européen fiable et presque en connivence ?
Si ça marche, j'espère que ça sera mieux, parce que Madame Merkel n'a jamais rien fait de ça. Du point de vue d'Obama, il y avait une sorte de considération presque automatique, parce que l'Allemagne était au centre du jeu, plus qu'elle n'est aujourd'hui, parce qu'on voit bien que son système politique est un petit peu affaibli.
Affaibli.
Mais elle n'en a rien fait. Elle n'a pas porté d'idées particulières sur les relations avec les États-Unis à long terme, sur les relations avec la Russie, échec complet. Donc, si quelque chose se passe entre Trump et Macron, à mon avis, il ira beaucoup plus loin.
C'est-à-dire que les Allemands ne sont pas réputés pour être des grands diplomates au niveau international et avoir une grande influence.
Non, il y a une sorte de prudence, ouais. Voire même d'inhibition. Mais enfin, il aurait pu, à un moment donné, formuler les choses. Donc, ça, si ça marche, ça peut aller plus loin. Si ça ne marche pas, il ne faudra pas le critiquer, parce qu'il faut tenter ça, étant donné qu'aucune des autres approches ne fonctionne. Avec Trump, il faut essentiellement savoir ce que nous voulons, tenter ce jeu avec lui, mais dépendre le moins possible de lui.
Hubert Védrine, je rappelle le titre de votre dernier livre, ça s'appelle « Contes à rebours », compte avec un S, plusieurs comptes à rebours, comment conjurer les menaces, ça va paraître dans une semaine aux éditions Fayard. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes après la revue de presse, il y aura aussi Patricia Martin. Et vos questions, les auditeurs, vous nous appelez, question ce matin à Hubert Védrine, c'est au 01 45 24 7000, à tout de suite.
France Inter, le 6-9 du week-end. Éric Delvaux.
Et intervenait ce matin au 01 45 24 7000. Question à l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Votre dernier livre a pour titre « Comptes à rebours, comment conjurer les menaces ?» Il y a pas mal de questions sur le rôle de la Russie. On va y revenir, on l'abordait dans un premier temps. D'abord, Patricia Martin, une question ?
Oui, ben volontiers. Hubert Védrine, quelle peut être la marge de manœuvre d'un ministre des Affaires étrangères, dont je note d'ailleurs que plusieurs ont été aussi Premier ministre ? Est-ce que ce sont de simples exécutants, sachant que l'impulsion et l'image d'un pays, elle est donnée par le président de la République ?
Ça dépend tout à fait du contexte, hein. Il n'y a pas de réponse générale. De toute façon, c'est un poste très important dans les ministres, parce que même quand un président détermine la ligne, il y a une question de mise en œuvre, des dizaines de coups de téléphone à donner chaque jour, des voyages permanents. Quand j'étais ministre, je ne crois pas que ça ait changé beaucoup, je faisais 100 voyages par an. Donc la mise en œuvre est gigantesque, c'est un art d'exécution, vous voyez, beaucoup. Alors après, ça dépend de la situation. Il faut distinguer cohabitation ou pas cohabitation.
Vous étiez en cohabitation.
Moi, j'étais en cohabitation comme Alain Juppé, par exemple. Vous voyez, Donc ça donne une situation différente.
Parce que ça reste le domaine réservé du chef de l'État, la politique
étrangère. Il n'y a pas de domaine réservé,
oui,
au sens
sûr.
C'est le
régalien
qui a le dernier mot. Ouais. Mais partout, c'est pas la France, ça. Aux États-Unis ou en Grande-Bretagne aussi, c'est le chef qui a le dernier mot. Mais entre le dernier mot et contrôler l'ensemble des détails, il y a une marge, puis après ça dépend de la... Donc il faudrait faire un tableau complet, on n'a pas le temps, tous les présidents de la 5e, tous les ministres de la 5e, et on verrait le degré d'autonomie, d'influence, etc.
L'administration est très présente, là aussi, dans un ministère comme celui des Affaires étrangères, et c'est pas elle qui donne aussi le « là » ?
Non, mais c'est c'est un domaine dans lequel l'État est moins affaibli qu'il ne l'a été ailleurs depuis quelques décennies. Donc il y a un corps ancien, prestigieux, avec 10 000 personnes qui ont une connaissance absolument extraordinaire de ce qui se passe dans le monde partout.
Trop influent ou pas ?
Non, c'est
non.
Encore une fois.
Non, mais il y a un héritage, non, en matière de politique extérieure.
Non, mais pas plus qu'en matière préfectorale ou je ne sais quoi. Il y a une vision, il y a une analyse, il y a des différentes thèses, différentes lignes. Et après, ça dépend de qui arbitre et qui décide et qui fixe la ligne. Il y a très souvent sur les sujets plusieurs points de vue. Est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire en Afrique ou pas? Est-ce qu'il faut être très engagé au Proche-Orient sur la Israël-Palestine ou au contraire par rapport à l'Iran? Il y a plusieurs lignes.
Et avec Jacques Chirac, ça se passait comment?
C'est autre chose, mais je suis là pour, je suis pas là pour raconter ma vie.
Ça peut être intéressant.
La cohabitation, c'était entre Chirac et Jospin.
Oui, mais forcément aussi entre Jacques Chirac et vous.
Oui, mais enfin, je crois que ça a bien fonctionné globalement. Mais en tout cas, tous les ministères des Affaires étrangères, quand ils sont bons de haut niveau et compétents, ce qui est le cas, ils présentent des analyses variées, des possibilités variées. C'est au ministre, enfin, il y a une hiérarchie interne, des directeurs, un secrétaire général, cabinet du ministre, ministre. Bon, après, c'est au président dans les choix principaux de dire on va au nord ou au sud. Vous voyez, des choses comme ça.
Mais est-ce qu'avec Emmanuel Macron, la politique étrangère de la France reste dans la ligne de ce que De Gaulle appelait une certaine idée de la France, c'est-à-dire une France autonome, indépendante des États-Unis, ce que vous avez rebaptisé d'ailleurs ensuite comme étant une ligne gaullo-mitterrandienne.
Oui, c'est un terme que j'ai employé quand j'étais porte-parole de Mitterrand, à partir du moment où Mitterrand a complètement assumé la politique de dissuasion. Je l'ai employé plutôt sur la défense, en fait, que sur la diplomatie. C'est devenu une expression qui s'est...
répandue.
Qui s'est généralisée. Dans sa campagne électorale, deux fois Emmanuel Macron, comme candidat, s'était référé au gaullo-mitterrandisme, qui est donc cette synthèse que vous venez de rappeler.
Par opposition aux néoconservateurs qui seraient atlantistes.
Ça voulait dire, dans le langage, ça voulait dire qu'il n'est pas de la tendance des néoconservateurs. C'est un mouvement qui s'est développé aux États-Unis, qui est hyper-occidentaliste et qui pense que l'Occident doit imposer...
au nom de la juste guerre.
Voilà, beaucoup d'interventions au nom de nos valeurs, etc. Bon. Mais à mon avis, il est, si je puis me permettre, le président, il est macronien, d'abord. Et il mène une politique étrangère qui est la sienne.
Qui est plus ambitieuse que celle
qui est très réaliste,
Nicolas
en tout cas.
Sarkozy qui est très ou François Hollande.
Enfin, il me semble qu'il a voulu se présenter comme n'étant pas le continuateur automatique de Sarkozy-Hollande, en tout cas. Bon. Après, il me semble qu'il a une approche réaliste. Par exemple, quand il a dit à plusieurs reprises qu'il ne devait pas s'interdire de parler qui que soit grec, c'est pas par plaisir et désir de parler avec des monstres. C'est parce que simplement le monde est là, dans la réalité, et que la diplomatie est inventée depuis la nuit des temps pour avoir une autre option que la guerre par rapport à ça. Après, ça dépend comment on agit, comment on fait. Donc il me paraît réaliste, très ambitieux, et manifestement aux yeux du monde entier, pas uniquement suite au choc positif de son élection, mais pour d'autres raisons, initiatives très concrètes, il a remis la France, disons, dans le grand jeu diplomatique. Maintenant, le monde est incroyablement complexe, difficile, ça permet pas de faire des miracles, on en parlait il y a quelques minutes, ça permet pas de retourner les positions de M. Trump comme une crêpe. Il y a tout un système américain ou la Russie. Mais enfin, on est là. On est là, je crois que c'est bien.
Hubert Védrine, votre livre « Contes à rebours ». On va aller au standard avec une première question de Philippe qui nous appelle de Dijon. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour. Bonjour M. Védrine. Ma question directe. Le président Macron va rencontrer le président Trump à la fin du mois de mai. Ne serait-il pas opportun, lors de cette visite, puisque Trump, à une époque, a dit « Messieurs les Européens, prenez vos responsabilités pour une défense européenne ». Eh bien, cette question, de la remettre à l'ordre du jour, afin de créer cette défense européenne que, je dirais, on en parle depuis très très longtemps, et qui, peut-être, permettrait d'apaiser aussi des relations avec la Russie, du fait qu'il y a une grande partie aussi qui est en Europe.
Hubert voilà. Védrine.
Trump n'est pas le premier président américain à demander aux Européens de faire plus, puisque les Européens sont protégés à leur demande. Depuis l'après-guerre, par l'Alliance Atlantique et le traité de Washington et l'article 5 qui suppose un engagement automatique, et tous les présidents américains ont râlé en disant qu'il faudrait prendre une part plus grande. Encore aujourd'hui, le système américain, l'OTAN, les États-Unis, par contre, dépensent 70% des dépenses de l'OTAN.
Et les Américains pensent qu'ils payent trop cher.
Exactement. Et alors, donc, il demande un partage du fardeau. Mais c'est pas Trump, ça, c'est aussi vieux que l'Alliance. Donc, faire plus, oui. Mais les Européens qui ont, après la guerre, décidé d'abandonner tout ça, en réalité, et qui se sentent très bien d'être protégés, ne montrent aucun signe de vouloir se défendre par eux-mêmes. Alors qu'il y ait des projets de coopération militaire, c'est très bien. D'ailleurs, tous les discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe comportent un développement sur une plus grande coopération militaire, initiative de défense qui ferait que la France, quand elle est obligée d'aller au Sahel, parce que personne d'autre ne peut y aller, ne serait pas seule, etc. Bon, ça, c'est très, 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 très bien. Mais pour qu'il y ait une vraie défense de l'Europe par les Européens eux-mêmes, il faudrait qu'il y ait une augmentation des budgets, qu'on se mette d'accord sur qui décide quoi, qui donne des ordres. Bon, on n'en est pas là. Par contre, il y a beaucoup de choses à faire avec des coopérations industrielles. Ne serait-ce que les Européens se mettant d'accord au moins sur on va faire ensemble tel sous-marin, tel avion, ceci, cela. C'est ça qui est en jeu maintenant.
Hubert Védrine, qu'on le voit bien avec Emmanuel Macron, c'est que dès qu'il s'agit de réformer de l'Europe, il y a pas mal de réticences, à commencer par l'Allemagne. Jeudi dernier, Emmanuel Macron a tenté de convaincre Angela Merkel des bienfaits d'une union bancaire européenne avec plus de solidarité entre les pays membres de la zone euro. Sauf que quand on lui parle de solidarité bancaire, Angela Merkel répond compétitivité. Comment réformer l'Europe dans ces conditions?
Oui, mais il y a plusieurs sujets. Celui dont on parlait juste avant, c'est est-ce que les Européens peuvent faire plus en matière de défense? Ma réponse est évidemment oui. Mais pas aller jusqu'à défendre l'Europe tout seul par eux-mêmes. On n'en est pas là. C'est un sujet pour après-demain. Après, il y a toute la question du perfectionnement de la zone euro et de créer un système qui soit plus
solidaire,
résistant face à des crises. Plus résistant parce que plus solidaire et plus efficace. Bon, ça, c'est une discussion qui est en cours. Mais on voit bien que les...
Excusez-moi. On va peut-être vous apporter un verre d'eau
non,
si
j'ai
besoin.
Tout ce qu'il faut. Bon. On voit bien que les propositions d'Emmanuel Macron sur une intégration plus forte de la zone euro se heurtent à des résistances considérables. Pas uniquement de l'Allemagne sur laquelle il comptait pour aller plus loin et entraîner les autres, mais l'ensemble des autres qui, pour des tas de raisons variées, ne sont pas très preneurs. En revanche, il y a un domaine, on verra. Il obtiendra quelque chose. Madame Merkel ne peut pas ne rien répondre. Donc il y aura certains éléments de réponse aux différentes demandes françaises sur la zone euro qu'Emmanuel Macron a exprimé notamment à la Sorbonne et dans d'autres discours.
Hubert Védrine, votre livre s'appelle « Comptes à rebours, comptes au pluriel » et parmi ces comptes à rebours qui pourraient nous éclater un peu à la figure, il y a notamment les questions écologiques. Il y a 2 ans, lors d'un débat avec Nicolas Hulot, au lendemain des accords de Paris, et c'est dans votre livre, vous disiez que l'écologisation prendra du temps, mais elle se fera. Aujourd'hui, 22 avril, journée internationale de la Terre, êtes-vous toujours aussi affirmatif ?
Oui, mais je ne suis pas affirmatif sur le rythme. Mais disons, à long terme, c'est évident que la prise en compte des données de l'écologie, et pas uniquement des changements climatiques, mais aussi l'effondrement de la biodiversité, la question des déchets, etc., etc. Ça entre dans le débat politique, sinon vous m'en parleriez même pas. À France Inter, il y a 10 ans, sur un livre, on m'aurait pas posé la question, vous voyez. Et puis ça entre dans le calcul économique. Il y a de plus en plus de grands fonds de pension dans le monde qui se retirent... en tout cas qui annoncent, mais qui vont le faire, des énergies non renouvelables. Il ne se passe pas 8 jours sans qu'il y ait une invention extraordinaire quelque part dans le monde sur une molécule chimique qui est moins pire que celle d'avant dont on a besoin pour l'agriculture, pour des questions d'énergie. Donc oui, le mouvement à long terme est absolument fondamental. Il faut l'intégrer et il entre dans la politique, dans la géopolitique, dans tout le reste. Et ça, c'est positif.
Et tous ces nouveaux paradigmes, eh bien, on les lira dans ce livre que vous signez, Hubert Védrine. Ça s'appelle « Comptes à rebours, comment conjurer les menaces ». C'est un livre qui va sortir dans une petite semaine, me semble-t-il. Merci beaucoup, Hubert Védrine, d'être venu ce matin à France Inter. Et puis, bonne journée. Il est 8h52.